Merci à tous pour d'être aussi nombreux à cet horaire-ci pour une table ronde autour de la machine extraterrestre. À côté de moi, j'ai Stéphane, je te laisse donner ton nom de famille.
Pribilski.
Pribilski et Richard Denogan. Stéphane est romancier, Richard est à la fois scénariste, novelliste, anthologiste aussi. Essayiste, si je me souviens bien.
Oui, je suis multicarte.
Tu es multitâche. On va parler, le thème de cette année étant la machine. On pensait qu'il était important d'aborder le thème de la machine extraterrestre, et qui est un thème qui est assez récurrent en science-fiction, et de proposer aussi deux auteurs qui s'amusent, au-delà du thème de la science-fiction pure, de faire des uchronies à base de technologies extraterrestres, voire de machines extraterrestres. Est-ce que tu pourrais décrire ton travail, Stéphane, tout d'abord, sur...
Déjà, c'est la tétralogie des origines, elle tourne déjà autour d'un aspect déjà historique, la volonté d'inscrire tout ça dans un contexte historique précis, documenté, complètement réel, c'est-à-dire celui des fouilles archéologiques entreprises par les nazis aux quatre coins du monde avant la Seconde Guerre mondiale. Et plus particulièrement donc en Irak. Donc on est en Irak en 1939. Une expédition archéologique SS se trouve donc là pour remonter aux origines de l'humanité et trouver des preuves de la prétendue supériorité de la race aryenne. Donc tout ça, c'est rigoureusement vrai. Ça a eu lieu exactement de la même manière et au même moment. Et ensuite, dans cette expédition, il y a donc le personnage principal, Friedrich Sachshauser, qui est donc lui un espion nazi et qui est donc infiltré au sein de la mission. Il opère donc sous couverture. Et lui, donc, il va faire une rencontre qu'on peut donc qualifier d'une rencontre du troisième type. Et évidemment... aussitôt il cerne les possibilités militaires des découvertes qu'il a faites comme la guerre se profile, il se dit bien évidemment que si son pays se dote de la technologie dont il vient de s'emparer, elle pourra vraisemblablement pouvoir triompher de toutes les armées occidentales. Donc ça, c'est le début de l'intrigue.
Et toi, Richard, comment tu pourrais qualifier ton œuvre, par exemple, en bande dessinée, dans laquelle tu utilises des artifices de machines extraterrestres sur ces deux séries que tu...
Sur ces deux séries-là, donc elles sont ces deux uchronies, mais très différentes l'une de l'autre, puisqu'il y en a une qui se passe dans une deuxième guerre mondiale qui n'en finit pas. Et ça se passe en 46 et 47 pour l'instant dans Wunderwaffen. Et pour la Grande Guerre des Mondes, bah c'est une uchronie qui commence vraiment avec l'album. C'est la charnière, c'est les Martiens de Wells finalement sont réels et ils arrivent au milieu de la bataille de Verdun. Et donc là, on a des extraterrestres qui débarquent réellement. Et c'est pas pour une réécriture de Wells, j'utilise les machines martiennes et les martiens, mais le reste est assez différent. D'ailleurs, c'est croisé avec une autre histoire. C'est l'affaire de la Tougounska en juin 1908 en Sibérie, où il y a quelque chose de mystérieux qui est tombé du ciel. On sait toujours pas exactement ce que c'est, même maintenant. Et donc, je fais intervenir cette autre histoire qui peut être assimilée à une affaire extraterrestre. Et dans Wunderwaffen, en fait, on retrouve des... les mêmes compères que chez Stéphane, puisque c'est les gens de la Nénerbe notamment, qui est donc les fameux archéologues. Donc moi aussi, ils sont toujours là. Et c'est la machine, c'est quelque chose qu'ils découvrent dans l'Antarctique. Là, je joue sur la mythologie aussi de la base secrète nazie en Antarctique qui a alimenté beaucoup de fantasmes et tout après-guerre. Et donc là, il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma, bon, évidemment à The Thing, mais donc c'est ça, c'est chez lui il trouve l'extraterrestre avant la guerre, et moi c'est pendant que ça continue très longtemps après.
Et c'est quoi l'intérêt d'utiliser justement ce principe de technologie dans des extraterrestres, dans des uchronies? Est-ce que c'est une facilité scénaristique ou il y a une volonté aussi de s'amuser avec et de décrier des petites choses et de faire de la RKOSF.
Ben, je dirais que dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et des armements, des armes secrètes ou des développées ou que les nazis ont tenté de développer, il y a une part de mythe qui s'inscrit très fortement. Le marteau de Thor, il fait directement donc référence à l'arme du dieu Thor. Il faut savoir que Himmler, donc le patron de la SS, grand criminel de guerre, c'était d'abord un féru d'ésotérisme, et c'est quelqu'un donc qui a très sincèrement tenté de développer une arme apparentée au marteau de Thor, quelque chose entre le canon sonique et le rayon laser. Au moment où l'Allemagne a commencé à perdre la guerre, il a vraiment envisagé, il a demandé à des savants d'essayer de développer quelque chose là-dessus. Évidemment, ça a foiré complètement, mais en tout cas, des projets complètement bizarres, incongrus, ont été développés par sous le Troisième Reich. Dans le travail de Richard, c'est aussi dans le domaine de l'aviation. Il y a quand même un certain nombre d'appareils qui ont une avionique, des lignes très aérodynamiques qui étaient complètement novatrices pour l'époque. Et on s'est aussi beaucoup interrogé sur, notamment dans le concept des ailes volantes des frères Horten, on s'est aussi interrogé sur le pourquoi, le côté presque surnaturel entre guillemets que pouvaient avoir ces avions par rapport à ce qui existait à l'époque et qui volait, je dirais, dans toutes les autres armées du monde. Voilà. Donc c'est sur cet aspect-là, effectivement, où on peut trouver dans la machine extraterrestre quelque chose qui renvoie directement à certains aspects réels, là, pour le coup, du nazisme.
Richard ?
Moi, pour Von der Waffen, en fait, la machine extraterrestre, elle est arrivée, c'était pas prévu au début. Mais ça, au début, ça devait être une série purement d'aviation uchronique, avec tous les appareils qui sont mis même les plus étranges, ils ont au moins existé sous forme de plan, chez l'ingénieur allemand. Et en fait, l'histoire de l'extraterrestre s'est greffée dans l'histoire de la guerre uchronique. Quand j'ai commencé à me dire, tiens, ça serait bien, il y a un truc qui pourrait se passer en Antarctique, puis de fil en aiguille, et maintenant, comme quoi, c'est bien la preuve que quand vous faites une histoire, on n'est jamais vraiment maître. Moi, j'arrive pas à faire les scénarios d'avance, parce qu'en fait, l'histoire, elle se nourrit toute seule, en cours de route. Moi, ça fait un côté un peu feuilleton, quoi, mais ça marche comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, je pense à quelque chose, et ça va me changer l'histoire, parce que ça rajoute quelque chose, et le plus gros morceau qui a été rajouté comme ça, mine de rien, c'est toute la partie avec le visiteur, comme il le surnomme. Et qui a changé complètement la série. C'est-à-dire que j'avais prévu une autre fin, et l'arrivée finalement des extraterrestres l'a bouleversé tout le plan, enfin de l'extraterrestre pour le moment. Et donc ça, c'était pas prévu au programme, contrairement à la Grande Guerre des Mondes, où là c'est un concept dès le départ. C'est une idée de mon éditeur Jean Vaquet, qui m'a dit un jour: tiens, on devrait, pour faire une commémoration de Verdun qui change un peu de ce qu'on vont faire les autres, et si on faisait venir les martiens de Wells à Verdun? J'ai dit, mais, ah oui? J'ai dit, et comment et pourquoi ils sont là? Il m'a dit, c'est ton problème, tu trouves. J'ai mis 3 mois à trouver une raison logique pour qu'ils y soient, à rajouter le coup de la Tugunska et tout, et seulement là, j'ai signé le contrat, alors que d'habitude, j'aurais signé le contrat tout de suite en disant, ok... Alors là, c'était arrivé du suite d'une discussion avec mon directeur de collection. Et là, l'extraterrestre donc est arrivé, mine de rien. Et il a commencé à prendre, au fur et à mesure qu'il était là, je disais, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Et donc, l'histoire a complètement changé. C'est comme si c'était arrivé dans la réalité, que ça change l'histoire, même pour le scénariste.
Quand on parle de technologie, enfin de machine extraterrestre, on parle de technologie extraterrestre, mais on oublie aussi que les vaisseaux spatiaux sont des machines en tant que telles. Par exemple, dans la Grande Guerre des Mondes, on parle de on est d'abord plus ou moins un vaisseau qui arrive. Et toi aussi, c'est un élément central du départ de l'intrigue. Est-ce que ces technologies, il y a tout un jeu de découverte? Comment ça se... Dans la science-fiction, est-ce qu'il y a un jeu de découverte, justement, d'incompréhension de ces technologies qu'on découvre, qui est plutôt amusant? Et est-ce que c'est pas un des piliers, justement, de la science-fiction?
L'idée des vaisseaux spatiaux, en tout cas dans la tétralogie des origines, c'est de les apparenter à ce qu'on imagine de l'OVNI, en fait, hein, et essayer de partir justement sur ces observations qui ont eu lieu à l'époque avec les Foo Fighters et ensuite avec tout ce qui s'est passé autour de Roswell, même si ça a été c'est un épisode très court en 47, mais donc tout ce qui tournait ensuite pendant la période de guerre froide sur des observations qui ont eu lieu et où on s'est interrogé sur sur ce qu'on pouvait éventuellement observer. Déjà, ça c'était un premier pan, et le second pan c'est le développement de tout un arsenal, notamment par les Américains et aussi un peu par les Soviétiques, où là on a eu tout ce qui a donné aujourd'hui l'avion furtif et ce qu'on en connaît, et où on s'est aussi interrogé, il y a eu toute une série de fantasmes là-dessus pour savoir exactement comment on avait fait pour développer ces machines. Est-ce qu'on n'avait pas développé d'autres machines qui, elles, sont restées complètement secrètes, là, pour le coup. Donc c'est aussi jouer sur certaines zones sombres de l'histoire, la vraie, jouer donc sur ces zones sombres là pour justement donner de la consistance à ces machines extraterrestres, à ces vaisseaux spatiaux, et pour donc là pour le coup pour les rendre crédibles, réels dans l'histoire.
Richard,
les Martiens, il y a un côté un peu steampunk et Wellsien quand même à fond, quoi. Donc là c'est ils sont bien délimités, on voit bien, même si l'histoire va être assez différente de celle de Wells, heureusement, ça va, ils sont bien cadrés et tout comme ça. Dans Wunderwaffen, en fait, le visiteur, son vaisseau, personne, y compris les nazis qui sont sur place, de la NRB, ne savent exactement en fait à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, ils ont détecté avec... le raccord que je fais avec l'histoire secrète et des choses comme ça, c'est les cartes qui ont mené les gens de la NRB à chercher avec des détecteurs s'il n'y avait pas quelque chose sous la glace. C'est les cartes du style des cartes de Piri Reis, donc qui montreraient le globe comme il était il y a plusieurs milliers d'années, sans savoir qui les a fait et tout. Donc j'ai joué avec ça, quoi. Et donc c'est la NRB qui a retrouvé des cartes anciennes, et à partir de ça ils ont vu qu'il y avait une carte qui montrait un événement, et quelque chose était tombé du ciel dans cet Antarctique ancien sans les glaces, et donc c'est ça qui les amène là-bas. Mais en fait ils ont détecté un kilomètre sous la glace et il y a le vaisseau, mais ça ressemble à, c'est une masse, mais ils savent pas, on sait toujours pas au tome 11, on sait toujours pas à quoi ressemble le vaisseau, à quoi ressemble réellement le visiteur. Et qu'est-ce que c'est exactement cette arme qu'il a, qui s'appelle Thor aussi, ça ne s'invente pas. Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 6 juin 44, le débarquement a complètement foiré en Normandie, parce que d'une part, les Allemands étaient plus préparés, parce que c'était déjà en décalé, c'est déjà une histoire chronique, mais il y a quelque chose qui est intervenu et qui les a fait gagner, et ils savent pas, eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Il y a quelque chose d'intervenu pour eux, et ça s'appelle Thor, parce que Hitler a décidé, ah ben oui, ça c'est la foudre, c'est pas le marteau, mais c'est la foudre de Thor. Ouais. Heureusement que Thor avait beaucoup de matériel. Non, mais c'est assez rigolo. Quand même. Et donc, le mystère, ça a commencé avec... C'est à partir de ça que j'ai... Les histoires avec les extraterrestres dans cette affaire-là ont commencé à apparaître. Mais c'est vrai que la machine, c'est un mystère complet. Et là maintenant, le visiteur, il est là. Il a pris la forme d'un officier subalterne de la SS. Et puis, à un moment donné, quand Himmler voit cette espèce de robot avec la tête et il lui dit, il le regarde comme ça. Et l'autre lui dit, j'ai pris la forme... qui pouvait vous choquer le moins et tout, vaut mieux pas que vous connaissiez ma forme réelle, quoi. Donc il y a le mystère complet, ouais, et la machine, on sait pas, il y a des choses qui interviennent, il y a une arme qui intervient, mais c'est toujours mystérieux, y compris pour ceux qui vont devoir s'en servir.
On pense, par exemple, quand on développe justement sur ces côtés mystérieux, sur la technologie extraterrestre présente sur Terre dans la fiction, qu'elle soit audiovisuelle, cinématographique ou de romans de bande dessinée, on pense souvent à des, justement à de la conspiration, à des sociétés ésotériques. Je vois par exemple que X-Files, que beaucoup d'entre vous, je pense, ont vu. La technologie extraterrestre est contrôlée par soit par un gouvernement, soit par des sociétés ésotériques ou secrètes. Est-ce que c'est un grand classique de la science-fiction de présence?
Oui, moi c'est le cœur même de mon travail, je pense. C'est-à-dire par exemple le Roswell, l'épisode de Roswell, je m'en sers dans le tome 4, hein, donc qui sortira l'année prochaine et qui conclura donc la série. Comment dire, pour moi ce qui m'intéresse dans cet épisode par exemple, c'est pas est-ce qu'il y a eu crash ou pas, est-ce qu'il y a combien de cadavres, à quel endroit exactement, qui a découvert quoi, est-ce que c'était une manipulation, l'histoire de la fausse autopsie, etc. C'est ce qui s'est passé dans les années 90 avec TF1, Jacques Pradel, etc. Bon, hein, voilà, ce qui m'intéresse dans cet aspect là encore une fois, c'est le versant sur les zones sombres de l'histoire. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir que juste avant que sorte le film de l'autopsie supposée d'un extraterrestre, donc en 94 ou 95, il y a un vrai rapport très sérieux qui a été commandé par un sénateur américain sur justement ce qui s'était passé depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Dans le domaine des soucoupes volantes. Ce sénateur américain, il a demandé donc à l'équivalent de la Cour des comptes américaine, dites-moi, depuis 50 ans, combien on a dépensé de sous dans notre pays, l'argent du contribuable américain, pour étudier les soucoupes volantes. Parce que bon, bah voilà, c'est peut-être un gouffre financier, j'aimerais savoir, etc. Donc il a commandé son rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes a rendu son rapport où, grosso modo, et pour faire simple et court par rapport à ça, où, grosso modo, les grandes agences américaines interrogées ont dit « Nous, on n'est pas au courant de quoi que ce soit, hein, FBI, CIA et compagnie. » Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans le plus, c'est ce qui a été dit justement de l'épisode de Roswell dans le rapport, ce qui a été donc là, pour le coup, qui a un fait avéré, démontré, c'est que toutes les communications de la base sur une période qui englobe la date supposée du crash, toutes ces communications ont été effacées. Et tout ce qui avait trait justement à la sécurité et aux unités de sécurité de la base aérienne américaine à Roswell, qui, je le rappelle, était une base où il y avait donc les bombardiers nucléaires américains qui étaient basés. Donc c'était pas n'importe quelle base, hein, c'était pas une base avec trois coucous, c'était la base, c'était la première base, le fer de lance de la défense américaine. Sur la période donc 46-49, si je dis pas de sottises, sur cette période-là, toutes les archives et toutes les communications des unités basées à cet endroit ont été effacées, détruites. On ne sait pas qui a donné l'ordre, et cela va évidemment à l'encontre de tous les règlements militaires. Je fais aussi de l'histoire, j'écris des livres d'histoire, et je travaille souvent en archives. On est capable de retrouver, quel que soit dans n'importe quelle armée du monde, on peut retrouver les archives de la plus petite unité militaire, on peut remonter jusqu'à Napoléon, parfois même encore avant. On peut trouver ça, et le règlement prescrit pour toutes ces armées de conserver leurs archives, mais c'est très amusant de constater que pour le coup de Roswell, où donc il s'est rien passé et où évidemment il ne s'est écrasé qu'un simple ballon sonde de l'armée américaine, et c'est très curieux quand même de constater que là pour le coup on est allé à l'encontre de tous les règlements et de toutes les habitudes sur le sujet. Donc voilà, moi je joue là-dessus et je dirais bon bah voilà, mon point de départ c'est évidemment le côté magique, mystérieux, est-ce qu'une soucoupe volante était là ou pas, mais c'est aussi pour fouiller un peu les arcanes des services secrets, du gouvernement américain, de tout ce qui tourne autour des théories du complot, et essayer de donner une explication, par exemple, de l'effacement de ces bandes de manière, je dirais, la plus crédible et la plus rationnelle qui soit, et la plus historique surtout, la plus historique.
C'était quoi la question au départ ?
C'était le versant conspirationnisme oui. qui se crée autour de,
oui,
des technologies extraterrestres.
Ben ça, en fait, là, moi, je, dans Mudder Waffen, j'utilise ça un peu. C'est la conspiration qu'on attribue aux nazis avec la NRB et d'autres services. Parce que là, en plus, je rajoute, il y a un service encore plus secret qui s'appelle le Sonderbureau 13, le bureau spécial 13. Et ça, c'est un clin d'œil parce qu'en fait, c'est un auteur d'un livre sur les ovnis qui, pour tester, pour voir si les gens qui allaient leur copier et vérifier leurs sources avaient inventé ça. Évidemment, tout le monde l'a recopié jusqu'aux États-Unis. C'est un auteur français. En disant, mais en plus, les Allemands, ils avaient un truc. Et puis après, l'affaire a été... Mais je me suis dit que c'était amusant de faire aussi qui est lui faire vivre pour de bon le fameux bureau spécial 13. Quoi, et donc là, ça joue sur les acteurs de la conspiration supposée. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu les premières histoires en 1947, notamment avec les soucoupes volantes, Roswell et tout, au départ, on a pensé que c'était des armes secrètes allemandes utilisées par les Russes qui survolaient les États-Unis. Bon, après, il s'est avéré que ça, c'était vraiment pas ça. Et donc, mais à partir de cette époque-là, il y a des gens en Allemagne qui ont commencé à. Des anciens ingénieurs, comme ça, des gens des fois un peu douteux, qui ont commencé à faire passer l'idée que, en fait, les nazis, c'était eux qui avaient inventé les soucoupes volantes, et que si, que ça, et puis qu'ils étaient toujours là. Qu'il y avait donc la base
le
Vril,
le Vril.
Oui, ça c'était en plus c'est le Hanebout, les trucs comme ça. Et donc il y a toute une conspiration qui existe toujours maintenant. Je veux dire, il y a des, on trouve ça, il y a des tas de livres, des tas de sites conspirationnistes où le gouvernement secret avec Hitler qu'on a emmené et tout. Maintenant ils sont un peu fatigués, je pense. Mais et notamment avec cette fameuse base. Mystérieuse qui serait en Antarctique sous la, dont on aurait caché l'existence et où les, où iraient régulièrement donc des avions insaisissables mais ce qui pouvait marcher dans les années 50 maintenant ça devient quand même un peu spécial et c'est très difficile à penser qu'il y a des gens qui croient ça encore que, hein, c'est, non, avec le moins de satellites bon, vous me direz, il y a quand même des gens qui croient que la Terre est plate et il y a même des associations, donc on peut croire ce qu'on veut. Quoi. Mais là, il y avait, là, j'ai joué beaucoup sur justement cette histoire du complot, et de la mythologie noire après la guerre, sur tout ce qui tournait avec les, non seulement les super avions, mais aussi cette espèce de bureau de l'occulte des nazis qui était la NRB.
Oui, sur le. Ah, c'est Sonder Commando 13, hein, c'est, voilà, Sonder Bureau, ouais. Pas Sonder Commando, ouais. L'idée, c'est aussi un des ressorts de la série, c'est justement de dire, moi j'appelle ça le brouillage en fait dans la série, c'est-à-dire les Américains, à partir du moment où eux ils vont avoir vent donc de ce qui se passe en Irak et de ce que les nazis ont découvert, ils vont un peu utiliser toujours un espèce d'art du brouillage et un art du contre-feu. Ça s'apparente effectivement à ce que tu dis sur le Sonder Bureau 13, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une vérité qui est avérée quelque part, on va créer en fait une contre-vérité ailleurs et ça va en fait focaliser l'attention. C'est-à-dire l'explication hein, tout à l'heure, ce dont je parlais sur le fameux rapport de la Cour des comptes américaine, comment certaines personnes disent que en fait voilà si l'autopsie TF1 Pradel à l'époque est sortie à ce moment-là, c'était un peu aussi pour occulter quelque part la sortie de ce rapport très sérieux où il y avait effectivement des faits qui étaient énoncés par rien de moins que la Cour des comptes. Donc là en l'occurrence je dirais dans le grand public, personne n'a entendu évidemment parler de ce rapport de la Cour des comptes et tout le monde a entendu parler de cette autopsie et on s'est tous focalisés pour savoir, alors oui, est-ce que la caméra à l'époque, elle pouvait filmer sous cet angle l'extraterrestre, est-ce que la peau était suffisamment flasque, nanana, nanana. Enfin, je veux dire, des tas de détails dont on se fiche éperdument parce que l'histoire, encore une fois, c'est de dire, mais ouais, mais est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas un rapport qui est un peu passé complètement inaperçu et sur sur lequel peut-être déjà les historiens, bah, commencez par ça, sur lesquels les historiens les plus sérieux auraient pu déjà se pencher et pour essayer de comprendre pourquoi on avait effacé des bandes à l'époque. Voilà.
D'accord. Et quand on parle de technologie extraterrestre, par exemple, quand tu réfléchis, quand vous réfléchissez tous les deux à une technologie extraterrestre, est-ce que tu sources beaucoup ton travail historique et Richard aussi, est-ce que vous réfléchissez aussi à documenter d'un point de vue scientifique, même si on sait que c'est pas du tout crédible et vous documentez quand même un peu pour le rendre crédible et, plus ou moins oui. véritable, ou vous restez une grosse part de magie?
Oui, vous avez compris qu'avec Club Uranium, on parle un petit peu de radioactivité, on parle aussi un petit peu de bombes atomiques, même beaucoup, parce qu'après on va se retrouver embarqué donc dans le projet Manhattan et dans tout ce qui s'est passé autour. Développement de la bombe atomique par les États-Unis. L'idée aussi, c'est de dire, voilà. En 1939, les Américains ne connaissent la possibilité d'une bombe atomique que par le biais d'une lettre qui a été écrite par Einstein et qui a été adressée donc au président Roosevelt. Et en 1939, en janvier 39, Einstein, quand il dit « oui, on peut faire une bombe atomique », lui, il pense encore que ça va peser des tonnes et que ça sera uniquement transportable par bateau. Donc vous voyez le cheminement entre 39 et 45, un mec comme Einstein en 39, lui-même il a qu'une idée très vague de ce que ça peut être vraiment une bombe atomique. Et l'idée dans tout ça, c'était de dire, voilà, moi j'ai des vaisseaux extraterrestres, il faut que je les décrive du point de vue de personnes qui ont une idée très vague de ce qu'ils peuvent avoir en présence. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un moment un physicien nucléaire qui va donc se retrouver face à une source d'énergie donc du vaisseau, donc il va être irradié, enfin il va penser qu'il va être irradié, et donc en tout cas il en aura tous les symptômes. Et il va analyser ça de son point de vue à lui, c'est-à-dire d'un point de vue d'un mec de 1940 qui a des idées déjà de ce que ça peut être une fission nucléaire, mais des idées entre guillemets de base. Donc pour lui, quelque chose qui a la taille grosso modo d'un pamplemousse, ça peut pas être dangereux en soi, parce que voilà, à l'époque on portait encore des bijoux, les hommes ou les femmes portaient encore des bijoux au radium qui étaient des trucs radioactifs qui filaient des cancers de la thyroïde, je crois, si je dis pas de sottises. Ben voilà, on avait encore un rapport par rapport à l'atome et par rapport à ses méfaits qui était encore très comment on va dire ça. Enfin voilà, on se rendait pas vraiment compte des possibilités, des dangers de la chose, et certainement pas dans le grand public. Et même jusqu'à un très haut niveau de scientifique. Hein, voilà, encore une fois, Einstein en 39. Son idée de la bombe, c'est pas vraiment ce qui en a résulté en 45.
Dans Wunderwaffen, puisque ça joue pas vraiment dans l'autre série, ça, en fait, ils sont face à quelque chose qui, ils savent que c'est technologique et tout, mais ils ont un peu la réaction comme si c'était de la magie. C'est l'histoire du. Quand Clark disait que la technologie poussait à un certain terme, à un certain niveau, devenait de la magie pour les géants. Ben c'est ça. Donc, et puis en plus, il y a une guerre, parce que l'Annenerbe représente de la science un peu ou étrange ou dévoyée ou des fois solide. Mais en fait, il y a toute une partie, c'est une vision du monde totalement différente de ce qu'ils appelaient la science juive, quoi. C'est-à-dire... donc à Einstein, ils sont complètement en dehors de ça, et puis en plus dedans il y a aussi le problème, c'est qu'Hitler, lui, il pense que de toute façon c'est les dieux nordiques. Alors ça fait vraiment des et à un moment donné dans le prochain apparaître là, il dit à Himmler, Thor, c'est un dieu nordique et tout. Et puis d'abord, je sais très bien qu'on peut pas venir, un vaisseau peut pas venir des étoiles, c'est trop loin. Et Himmler lui dit, ça c'est de la science juive, nous notre science de la Nénerbelle marche, la preuve, et il y a le visiteur qui est là. Donc en fait ils sont complètement perdus, ils savent que c'est de la technologie extraordinaire, mais ils ont il y a des batailles entre eux sur la nature réelle de la chose, mais ils ont quand même quelque part c'est magique, voilà. Et le visiteur, il a quelque chose de franchement démoniaque, même s'il apparaît. C'est pour ça que celui-là, il s'appelle le visiteur du soir, parce qu'en fait, c'est une allusion au film de Marcel Carnet de 42, où le diable envoie deux de ses anges sous les plus beaux atours, dans la France de la guerre de 100 ans, soi-disant pour aider la France, mais en fait, c'est pour la ravager jusqu'à fond. Et c'est ça, là, le visiteur donc, venu de l'Antarctique, dont on ne connaît même pas la forme réelle, il apparaît pour donner un sacré coup de main à Himmler qui est en train de prendre le vraiment le pouvoir. Mais on voit bien que là aussi, quelque part, ces beaux atours, il y a de la magie noire derrière.
J'utilise ces types d'ingrédients avec le personnage de Rudolf Hess, hein, donc un des dauphins d'Adolf Hitler, et donc un nazi de la première heure, qui était d'abord un féru d'ésotérisme, quelqu'un qui était né en Égypte, qui avait été donc élevé en Égypte, abreuvé par sa mère par les récits de l'Edda, donc toute la mythologie nordique. Et donc c'est quelqu'un qui croyait, hein, c'était d'abord un croyant, il croyait profondément en toute cette mythologie nordique. Donc effectivement, je trouvais intéressant de pouvoir associer un personnage comme ça à un univers donc d'extraterrestre, parce que je me dis que oui, effectivement, lui, en l'occurrence, c'était la bonne personne pour, je dirais, adhérer immédiatement et je dirais de façon presque inconditionnelle à ce qui pouvait être une rencontre du troisième type. Voilà.
Et on va s'éloigner un tout petit peu de vos œuvres. Si on vous parle de technologie extraterrestre, quelle est pour vous la plus belle invention de technologie extraterrestre que vous ayez rencontrée dans les œuvres littéraires? Petite question, Pierre. Comment créer?
Pour préparer un peu tout ça, je me suis regardé Planète Interdite. Et voilà, et je me souvenais plus du tout parce que j'étais gamin la dernière fois que je l'avais vu. Donc voilà, et j'ai été très très étonné par l'espèce de machine des Krell là, qui est donc un espèce de puits qui fait des dizaines de kilomètres de profondeur à l'intérieur de la planète où il se trouve, et donc une espèce de puits de savoir aussi, parce que donc ça permet aux personnes de développer comme ça un espèce de savoir universel absolu. Donc ça, c'est la thématique du pouvoir des Krell, qui donc moi, ce qui m'amusait dans tout ça, c'était de voir en fait ce que sur ce thème là en fait, hein, donc une espèce de machine capable donc de conférer un savoir et un pouvoir absolu, donc développé par une race très ancienne, les Krell, etc., pendant des millions d'années. C'est en fait de voir, je dirais, la morale qu'en tiraient donc les Américains, donc quand le film est sorti, donc en 56, donc où en fait ils constatent que finalement c'est quelque chose qui a détruit les Krell, où eux-mêmes, donc les premiers humains qui sont arrivés, qui sont rentrés en présence de la machine, eux-mêmes, ils ont donc généré des monstres, donc en l'occurrence s'attaquent aux gentils Américains qui sont donc qui ont donc débarqué sur la fameuse planète armes à la main. Donc ces pauvres Américains donc se font massacrer par la bébête qui est générée donc par cette espèce de machine des Krell. Et en fait, au final, ce qui se passe, c'est que donc les Américains détruisent la planète en disant puisqu'on peut pas contrôler la machine et puisque c'est une machine qui tue, on va donc la détruire. Et je trouve ça assez sur la vision du monde par les Américains. Je trouve ça assez sympa en termes historiques, hein, je parle. Hein, c'est-à-dire que nous, à partir du moment où on comprend pas un truc, on le bombarde et on pense que ça va régler le problème.
Moi, c'est le monolithe de 2001.
dont tu as un petit clin d'œil à la fin du...
Il y a beaucoup de clins d'œil cinématographiques, là. Mais c'est vrai que ça, c'est le mystère extraterrestre. C'est la machine mystère extraterrestre par excellence. On ne sait pas à quoi ça sert. On voit bien qu'elle a des effets sur l'histoire de l'humanité, sur un tas de choses, qu'elle défie l'espace-temps. Et ce côté vraiment alien. Je crois que c'est une des machines les plus aliens parce qu'elle est incompréhensible, mais on voit bien ses effets. Et puis surtout, elle est totalement dépouillée. C'est juste un monolithe. Et ça peut changer l'univers pratiquement.
Tu parlais justement de la peur des Américains avec Planète Interdite, de pas mal de choses. Il y a tout un côté justement des technologies extraterrestres ou des machines extraterrestres du côté de la peur. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples plus positifs des machines extraterrestres et des technologies extraterrestres, selon vous ? Est-ce qu'il existerait pour vous des récits où justement ces machines ne sont pas considérées comme quelque chose d'incompréhensible qui fait peur ?
Le monolithe, non ?
Le monolithe.
En fait, le monolithe, on ne sait pas
oui, voilà.
S'il est
enfin,
bon.
Moi, je ne le vois pas comme...
On a l'impression qu'il
est vraiment malfaisant.
Oui, c'est ça, mais qu'il a sa propre logique. Parce que des machines vraiment bienfaisantes, il n'y en a quand même pas des tonnes. Mais par contre, des machines qui sont... qu'on ne comprend pas, mais qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas agressives, mais qui sont... des gros mécanismes comme je sais pas par exemple le Rama d'Arthur Clarke c'est univers qui traverse comme ça
Je reviens à l'énergie atomique et au développement de la bombe atomique. Il faut voir aussi que sur le développement d'une mythologie de la machine extraterrestre malfaisante, donc depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, je pense que quelque part, consciemment ou inconsciemment, elle est peut-être liée justement à l'apparition de l'arme atomique, où justement l'homme se rend compte qu'il a créé une arme qui peut détruire sa planète. Et quelque part, on crée une mythologie à côté, où plutôt que de s'intéresser à dire ah oui, l'homme est mauvais, il a créé l'arme qui peut le détruire, en fait, on va s'intéresser à une race extraterrestre qui, elle, arrive avec ses armes mauvaises et qui détruit. En fait, quelque part, on parle aussi peut-être de nous-mêmes quand on parle de tout ça. C'est un moyen d'édulcorer, en fait, de faire un peu passer la pilule aussi, peut-être. Pour certains auteurs, c'était une façon de. Peut-être aussi de faire passer la pilule. Je sais pas, moi je pense à La Planète des Singes avec Charlton Heston. Cette version-là, donc des années 70, dans sa fin qui est, je dirais, comment on va dire ça, définitive, excusez-moi, dans cette fin définitive, voilà, il y a quelque chose de comment dire, qui nous renvoie vraiment à ce que les gens pensaient à cette époque-là, époque de guerre froide, où on craignait vraiment une destruction de l'humanité par les armes atomiques. Quand on voit ce qu'en a été fait il y a quelques années... quand ils ont fait le remake, on se rend compte que les préoccupations, moi je considère qu'elles ont un peu dévié du sujet principal. On considère que finalement il y a eu une guerre atomique, mais finalement c'est pas une fin en soi, on peut survivre, on peut relancer quelque chose derrière, etc. On voit bien qu'il y a eu un glissement. Pour moi, en tant qu'historien, je l'attribue toujours un peu à la chute du mur. On considère que depuis que le mur de Berlin est tombé, c'est comme si la menace d'une guerre atomique avait disparu. Voilà. Quand on voit ce qu'ils parlent, aujourd'hui on parle des traités pour éviter la prolifération des armes atomiques, et on en parle un peu entre la poire et le camembert, entre deux informations. Je ne sais pas si le grand public se rend compte encore aujourd'hui que il y a des pays, notamment le nôtre, qui sont équipés d'armes atomiques et qu'en ce moment même il y a des têtes nucléaires qui sont pointées sur Nantes parce qu'elles sont tout bêtement pointées sur Nantes depuis 40 ans, 50 ans. Donc il n'y a pas de raison majeure pour que ces têtes-là ne soient plus pointées sur nous. Voilà. Enfin, donc la menace, elle est toujours là, il ne faut pas croire. Parce que les Russes ont disparu, l'Union soviétique a disparu, que la menace, elle n'existe plus.
Comment enchaîner après tout ça? comment, par rapport à certaines machines extraterrestres totalement incompréhensibles, le côté étonnement ne participe pas justement à la création de la mythologie? Sur le fait du monolithe, par exemple, où on voit le monolithe qui est une machine extraterrestre, on ne le comprend pas. Est-ce que ça ne participe pas à l'engouement de, justement de ces machines? Je pense par exemple au Tesseract ou...
Là...
Désolé. Tant pis. Mais du coup, ça suffit. Tu m'as pris de court. J'ai pas réussi à enchaîner correctement, désolé. Qu'est-ce que je voulais poser? Quelle machine extraterrestre vous aimeriez voir crédible, du coup, puisque le thème cette année du festival, c'est une machine? Et si oui, pourquoi? Quelle machine extraterrestre aimerais-tu voir créer, réelle? Et si oui, pourquoi?
Il y a quand même beaucoup de choses ont été faites. Qu'est-ce que j'aimerais avoir créé comme machine extraterrestre? Ouais, je sais, je suis un peu allez, hein, c'est une envie précise. Moi, je sais ce qui me fascine le plus, c'est les vaisseaux spatiaux. Je reste un amateur de space opéra indécrottable et tout comme ça. Et c'est vrai que par exemple, les vaisseaux spatiaux qui sont des vaisseaux conscients, pas certains vaisseaux qui sont quasiment vivants. Là, j'ai un peu de mal avec ça, mais des vaisseaux qui sont entièrement mécaniques, enfin technologiques. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraterrestre, puisque c'est. C'est déjà une image du thème extraterrestre, c'est le vaisseau qui traverse ou qui vient chez nous et qui lui-même est un alien quoi, par son côté presque vivant quoi.
C'est plutôt les machines à voyager dans le temps.
Ah oui, il y a ça aussi, mais c'est
pas extraterrestre. Mais même forcément si extraterrestre.
Ouais, mais si, alors là il faut qu'on, enfin si je me trompe, mais j'ai plutôt l'impression que dans l'imaginaire c'est toujours quand même une machine qui est une création de l'homme. Alors il y a peut-être des contre-exemples, mais je sais. C'est-à-dire que la machine à voyager dans le temps, hein, c'est toujours un homme qui l'a créé, mais
on peut demander au public, peut-être une aide du public si tu veux.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un connaît un texte où un extraterrestre construit une machine à voyager dans le temps? On lui fait participer un peu. Mais sinon, purement extraterrestre.
Donc ça reste vraiment un fantasme de l'homme, alors. Ça reste un fantasme humain.
Mais purement extraterrestre, qu'est-ce qui te...
Ce qu'on trouve dans certaines histoires, c'est par exemple les portails interdimensionnels.
Les portails interdimensionnels.
Ça peut. Là, par contre.
Ouais, voilà,
alors finalement, c'est un peu comme le même système que la machine à voyager dans le temps. Si
ouais, tout
dire.
À fait. Ouais,
c'est souvent. On découvre le coup sur Pluton, ou je sais pas où, on découvre le portail qui ouvre, qui ouvre l'univers à l'homme ou un système qui existe déjà. Et
Viller, on va passer la parole au public. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. N'hésitez pas à vous signaler en montant en levant la main. On va pas vous manger. De toute façon, on est là pour ça.
Allô? Non, je voulais juste donner deux exemples de machines extraterrestres qui ne sont pas belliqueuses. Je pensais surtout à deux films. Je pensais à Cocoon et Miracle sur la 8e rue. Alors évidemment, c'est pas, je ne pourrais pas vous raconter les films, mais en tout cas, ils ne sont pas là pour nous péter la tronche, quoi.
Je voulais relancer la question auquel vous n'avez pas répondu tout à l'heure concernant les machines qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, les machines sont extraterrestres. Et qui dit extraterrestre dit pas terrestre. Et donc, problème de communication probable. Il y a des nouvelles comme tous Smollett et les Brogov, où des enfants jouent avec ce qui ressemble à des jouets extraterrestres qui n'en sont pas. On retrouve aussi un peu ça, le problème de communication dans la stratégie Ender, mais là, c'est pas avec des machines, mais c'est avec des extraterrestres. Et voilà, quand on ne comprend pas la machine, Robert Sheckley, à l'époque de Planète Interdite, Robert Sheckley a fait une série de nouvelles qui était tout à fait amusante et très bien écrite sur Arnold et Grégor, et qui à chaque fois essaye de refourguer à quelqu'un des machines extraterrestres et qui, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais si vous avez une clé laxienne, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, les machines qu'on ne comprend pas et dont on essaye de se servir ?
Je dirais, moi, ça dans ma série, ces machines qu'on ne comprend pas, je les ancre dans des zones d'ombre toujours liées à l'histoire et à l'archéologie. Je parle par exemple de Göbekli Tepe en Turquie, donc un site archéologique. Qui remonte à l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc à environ, je crois, si je dis pas de sottises, qui remonte à une dizaine de milliers d'années, si je dis pas de bêtises, et ça remet justement en question la théorie des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que à l'époque où on considère que l'homme était purement donc nomade et donc se nourrissait de chasse et de cueillette, à Göbekli Tepe, des hommes ont créé ce qui pourrait s'apparenter à un temple, à quelque chose qui ressemble vaguement à Stonehenge, et avec donc une évocation, peut-être la première évocation d'un être céleste, d'un être un peu mystérieux qui viendrait d'ailleurs. Donc cet ailleurs, ça peut être aussi bien un univers de Dieu qu'un univers d'extraterrestre. En tout cas sur le type d'apparition, parce qu'évidemment on n'a aucune certitude par rapport à un site comme celui-là. Donc là je pense qu'en l'occurrence, si ça avait été un contact extraterrestre qui était à l'origine de Göbekli Tepe, je pense qu'effectivement, de toute façon, l'homme il n'est pas en mesure de comprendre effectivement ce qu'il voit et ce qu'il essaie de s'approprier ou pas d'ailleurs. Et on en parlait hier à une autre table ronde. Voilà, c'était Pierre Bordage qui parlait de l'histoire des religions et justement de ce mystérieux originel de la religion, hein, la lumière dans le ciel. Sur la chose qu'on comprend pas et à laquelle on finit par donner un sens. Donc là, en l'occurrence, le sens mystique ou le sens religieux, on peut être là effectivement sur l'histoire de la machine extraterrestre, effectivement, dont on ne sait pas se servir, entre guillemets. Ça, moi, je pense que c'est peut-être la réaction humaine à l'incompréhension de ce type de phénomène. Se créer un mythe. On se dit, ah ben voilà, ou du genre, hein, l'homme qui a vu l'ours, hein, donc du genre, moi j'ai vu un truc, alors parce que j'ai vu le truc, je vais tous vous expliquer ce que c'est le truc et comment ça marche, et c'est moi qui vais commander à la fin. Enfin voilà, parce que finalement l'histoire de l'humanité, c'est ça aussi, quoi. Voilà, l'histoire, les 10 commandements, c'est aussi, c'est d'abord un instrument de pouvoir, quoi. Enfin voilà, c'est... C'est pas seulement arriver et dire ah ouais, attends, moi j'ai parlé à Dieu, il m'a expliqué ce que je devais faire et ce que je devais pas faire. Voilà, je vais vous donner le mode d'emploi. Mais il faut encore une fois se poser la question de savoir c'est toujours le pourquoi. Pourquoi il fait ça, c'est pour prendre le pouvoir, hein, c'est toujours cette histoire d'un. Donc voilà, on comprend pas un truc. Donc si on réussit soi-même à trouver une explication rationnelle au truc, on peut créer une religion, un parti politique, enfin, etc., etc. Sur la mythologie nazie, idem. Hitler voulait créer un mythe, il voulait créer une religion. Ça va au-delà du parti politique et de la conception, je dirais, purement dictatoriale du truc, quoi. C'est-à-dire à travers son personnage à lui déjà, sur tout ce qu'il a pu travailler sur son personnage, sur son apparence physique, sur ses mimiques. Il y a du chamanisme dans ce qu'il faisait. Je sais pas, il faut regarder le Triomphe de la Volonté, hein, le film sur les cérémonies de Nuremberg. On se rend compte que du contenu idéologique, il y en a pas. Il n'y a pas de contenu idéologique dans le film là. C'est de la pure transe. C'est juste montrer un peuple qui subitement se donne en transe à son chaman. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est un truc qu'on comprend pas, et on se rend compte que le truc qu'on comprend pas, la machine extraterrestre par exemple, elle peut être vecteur d'asservissement. Elle peut être ou alors si on voit effectivement les religions d'un point de vue positif, de dire ah bah oui, ça peut être aussi le truc qu'on n'a pas compris, on l'a transformé par une religion d'amour et de paix. Voilà.
Est-ce qu'il reste d'autres questions? Hop.
Ça va?
Bonjour. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous fantasmiez beaucoup. On entend rien ?
Plus fort.
Là, c'est bon.
Là ? Ouais, c'est bon.
C'est bon. Vous parliez tout à l'heure que vous fantasmiez sur les machines à voyager dans le temps et que on n'en avait pas faites par des extraterrestres. Mais est-ce que ce serait pas parce que justement les extraterrestres n'ont pas la même notion du temps, de l'espace-temps et aussi peut-être pas les mêmes préoccupations que l'être humain a pour soit l'avenir, soit le passé, et que du coup, c'est juste pas dans la civilisation extraterrestre, tout simplement.
Tout à fait, mais là, comme le quatrième tome traite essentiellement de ça et qu'il n'est pas encore sorti, je vais pas m'étendre énormément sur le sujet, mais oui, effectivement, sur l'idée du temps, oui, il y a cette idée-là chez moi, effectivement, de dire, ouais, voilà. Sur nos préoccupations à nous, y compris sur notre vision qu'on peut avoir en tant qu'amateur de science-fiction, ne serait-ce que sur la colonisation par une race extraterrestre, est-ce que à chaque fois qu'on se préoccupe de ça, est-ce qu'on n'y plaque pas non plus nos propres fantasmes, les fantasmes en fait de notre race, de la race humaine? C'est-à-dire que la race humaine qui est effectivement emprisonnée dans une durée de vie très courte. Voilà, je reprends toujours, quand je parle de ça, je reprends toujours le thème de la pyramide. Hein, le pharaon, il se fait faire une pyramide et la construction, elle est à l'échelle de sa vie à lui, en fait. Et quelque part, c'est le truc parfait, c'est-à-dire, il prend le pouvoir et quelque part, son peuple tout entier, il va être, il va se dédier à la construction de cette pyramide. C'est-à-dire, il y a ceux qui la construisent, il y a ceux qui nourrissent les gens qui la construisent, et tout s'enferme dans le temps d'une vie humaine. Donc effectivement, avec les extraterrestres, on peut sortir de tout ça et imaginer... Là, pour le coup, parce que moi, quand je parle de la pyramide, c'est encore pour moi un facteur d'asservissement et de contrôle de la population. C'est-à-dire, le pharaon se dit quelque part, il faut voir le truc aussi d'une manière pragmatique, le mec se dit, ils vont faire la pyramide, tant qu'ils feront ça, ils feront pas autre chose. Sous-entendu, s'ils font pas autre chose, ils vont pas comploter contre moi, ils vont pas se poser la question si je fais du bon boulot ou pas, et ils vont me fichtre la paix jusqu'au moment où je vais mourir et qu'on va me mettre dans la pyramide. Donc quelque part, l'idée effectivement d'une race extraterrestre qui pourrait avoir dépassé ses limites temporelles de la vie humaine, dans mon travail, ça me permet peut-être d'inventer d'autres méthodes d'asservissement et de développement du pouvoir que les nôtres. Voilà.
Il reste 3 petites minutes, ce qui est suffisant pour une dernière petite question s'il en reste une.
Ça vient de me revenir un peu pour les extraterrestres qui font les machines à voyager dans le temps. Il y a des histoires où qui sont en relation souvent avec ce qu'on appelle les anciens astronautes ou l'astro-archéologie, c'est-à-dire que des extraterrestres seraient venus dans le passé pour faire avancer la race humaine, rester, créer finalement les religions. Et il y a des romans, il y en a deux qui viennent, où en fait les héros de maintenant se retrouvent à l'époque. Grâce à un système de portail temporel, enfin de machine à voyager dans le temps, installé par les fameux extraterrestres. Il y a Le jour où moururent les dieux de Walter Einstein, un roman allemand, et puis il y a au moins aussi un roman assez ancien de Jimmy Gueux qui s'appelait Mission T, qui est une histoire avec les anciens astronautes, quoi. Là on a vraiment ils ont installé le portail temporel. C'est autant un portail temporel parce que c'est une machine à voyager dans le temps, le portail temporel. Donc là on a On peut peut-être les mettre dedans, quoi. Ça permet de passer dans des temps différents, donc, et c'est pas forcément construit par les êtres humains, quoi.
Voilà. On va s'arrêter là pour cet échange et cette table ronde. Je vous signale que jusque les deux auteurs seront en dédicace à la librairie juste après, là, ils courent derrière leur pile de bouquins. On va vous souhaiter un bon festival et on va vous remercier d'être venus aussi nombreux. Merci.